Eugénie Pradez, Les Jeux de l'ombre, quatrième partie. Julie inspectait la distance. Tout à coup, elle s'écria « Ah bon, il ne manquait plus que ça !» Et elle apostropha Ernest, le ton aigre. « Une belle idée que tu as eue de nous amener ici un jour de fête. Ils nous attendent à l'abordage à présent. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ernest murmura « Tu aurais dû me croire ce matin !» Debout sur le quai, la troupe des Dispares attendait, en effet, patiemment. Que la chaloupe tardât ou non, il faudrait bon gré mal gré qu'elle vînt une fois ou l'autre se remiser à l'abordage. Jusque-là, dût-on attendre la nuit, personne ne bougerait. Sans oser regarder Julie, Ernest reprit les rames et le trajet s'acheva en silence. Mais de la rive venait un tapage de voix et de rires. De temps en temps, le timbre mâle du serrurier dominait le vacarme. « Quel rameur ! Quelle poigne !» Mais quand le bateau échoua enfin sur la grève caillouteuse, le père ôta de sa bouche la pipe de bois, cracha par terre et resta silencieux. Les enfants se donnaient de grands coups de coude dans les flancs en pouffant du rire. Seule la mère descendit jusqu'à l'eau. Sans paraître apercevoir la main qui s'offrait, Julie sauta à terre, cherchant à s'esquiver. Mais les doigts usés et comme déteints par le travail s'accrochaient à la robe légère, la chiffonnant à pleine main. « Non, non, Julie, cette fois vous ne m'échapperez pas. Me traiter comme ça, après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est d'un mauvais cœur. Heureusement pour vous que je comprends mieux les choses que les autres, moi. C'est la gloriole qui vous tient encore l'esprit. Avec le temps, ça passera. En attendant, puisque l'occasion de vous rendre service s'offre, je la prends malgré vos airs. » Julie dit froidement « Des conseils et des insultes, j'en ai assez eu autrefois. » Ernest, embarrassé, s'attardait autour de la mare. La mère lui jeta un regard oblique et reprit plus bas « Ce que j'ai à vous dire n'est pas fait pour être entendu par celui-là. C'est au sujet de son père. » Julie devint plus attentive. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» Rapidement, la Dispare murmura à l'oreille de sa fille le résumé de son récent entretien avec la Lambert. Mais dans son bref exposé, le soupçon qu'elle n'avait pas réussi à élucider devenait un fait certain, avoué et indiscutable. Impatienté du trop long colloque, le serrurier rappelait sa femme aigrement. « Allons, allons, qu'est-ce que vous avez tant à bavarder avec cette belle dame? En voilà assez !» La blanchisseuse ajouta à la hâte « Et qui sait de savoir cette chose-là? Ça pourra peut-être vous servir une fois ou l'autre. » Ernest et Julie se hâtèrent de s'éloigner. Des pierres lancées par d'invisibles mains continuaient de pleuvoir autour d'eux. Cela tombait en averses menaçantes. Julie murmura « Quelle engeance !» Et elle se mit à marcher distraitement. Sous sa tignasse blonde, une idée était entrée. Elle la tournait et la retournait, étonnée et indécise. Ernest l'accompagnait, silencieux. Enfin, il dit « Tu sais bien, Julie, que je t'aime quand même. Alors ne te tourmente pas ainsi. Puisque je t'aime, qu'importe le reste ?» Elle s'arrêta, le toisa et répondit acerbe « En m'épousant, tu t'imagines m'avoir fait beaucoup d'honneur, n'est-ce pas? Mais il est possible que tu te trompes sur ce point, comme sur beaucoup d'autres. » Ernest se remit à marcher sans reprendre l'entretien. Elle le suivait, songeuse. Comme une semence tombée dans un terrain bien préparé, une joie poussait en elle, grandissait, s'épanouissait, prenait toute la place. En quittant la berge, la bande des Dispares était retournée du côté des baraques et, machinalement, la Lambert les avait suivies. Une fatigue pesait sur son esprit. C'était comme la meurtrissure d'un coup oublié, mais dont la sensation se prolonge et ne s'efface que peu à peu. De temps en temps, le mouchoir sur la bouche, elle toussait. Le serrurier marchait à côté d'elle, il avait laissé éteindre sa pipe. Tout à coup, il demanda « Avez-vous les poumons malades que vous toussez ainsi ? Elle dit, la voix douce, « Non, c'est la chaleur. » Enfin, la nuit descendit. Il y eut des lumières partout. Les baraques brillaient comme des palais de diamants. Mais la fatigue était venue. Somnolents et là, les enfants se laissaient traîner du côté de la gare sans protester. La Sourthe, très noire, coulait, sinistre, entre ses rives profondes. Mais au-delà de la zone illuminée, elle reparut toute claire sous le ciel étoilé, s'en allant comme une route argentée à travers la campagne. Le retour fut silencieux. Sur le quai de la gare, les deux femmes se serrèrent la main, puis, d'un commun accord, s'attardèrent, laissant leurs enfants s'en aller sous la conduite du serrurier. La Dispard avait remis son chapeau et ses prunelles pâles brillaient comme deux étoiles, tandis qu'elle cherchait à mettre en paroles claires la préoccupation qui, depuis le matin, ne la quittait pas. Enfin, elle se décida. Vite et bas, elle murmura « Ce que je crois, je le crois. Mais n'ayez pas peur. Si je fais quelque chose, ce sera pour le bien de tout le monde. » La Lambert rejoignit ses enfants. Elle marchait à côté d'eux, silencieuse. Il était tard. Dans le clair obscur de la nuit d'été, les réverbères inutiles clignotaient faiblement. Mais à l'occident, mêlée aux fumées des fabriques, une bande de nuages noirs s'élevait à l'horizon, et lentement, sans s'alléger, le mur montait. Dans la nuit, la pluie se mit à tomber. Par la fenêtre ouverte, la Lambert voyait le ciel s'obscurcir. Elle se tournait et se retournait dans son lit, l'esprit hanté d'une inquiétude obstinée. Elle songeait à la sécurité de sa vie, à la tolérance que ses filles aînées, ouvrières comme elle, trouvaient à la fabrique, malgré leur mauvais renom et leur turbulence. En disant ce qu'elle avait dit, qu'avait-elle fait ? La pluie continuait de tomber, et l'air, saturé d'eau, se refroidissait. Soudain, un frisson secoua le corps débile. Grelottante, la Lambert se leva et alla fermer la fenêtre. Mais comme elle se recouchait, la toux devenue harcelante depuis quelque temps, la prit à l'improviste, et pour laisser passer l'accès, elle se redressa. Quand il fut fini, elle se hâta de se recoucher. Trempée comme au sortir d'un bain, elle s'enroula dans ses draps, s'y cacha jusqu'au menton, mais très vite le poids des couvertures l'étouffa. Elle les repoussa, et les yeux grands ouverts, demeura obsédée de pensées. À la fin, comprenant que le sommeil ne viendrait pas, elle s'assit sur son séant, et résolument, cette fois, regarda passer tout au fond de sa mémoire le cortège de spectres qui depuis des heures sollicitait son attention. Et elle revit le soir d'hiver. La neige était tombée depuis le matin, il y en avait partout sur le quai et dans la rue. Ahurie par les colibés des ouvrières, elle s'en allait, rasant les murs. Sa maternité était prochaine, elle ne pouvait plus la cacher, et parce qu'elle s'était tenue à l'écart à la fabrique, avec son grand secret sur le cœur, on la houspillait plus qu'une autre. On lui disait « Ah, c'est bien fait !» Elle était presque une enfant. Elle était seule et elle avait peur. Peur de sa solitude. Peur de ces choses vers lesquelles elle allait. Alors, il lui était venu un grand courage, et elle s'était décidée. Il faisait nuit, elle avait laissé les ouvrières se disperser, et elle était revenue sur ses pas jusqu'à la maison où elle n'était entrée qu'une seule fois, il y avait quelques mois, et où elle avait été si bien reçue. Elle sonnerait et elle entrerait. Et quand elle sortirait, peut-être serait-elle moins abandonnée et malheureuse. Un grand courage lui était venu. Elle dirait les choses telles qu'elles étaient, la vie à la fabrique et la solitude, parce que se taire plus longtemps, elle ne pouvait plus. Celui qu'elle cherchait n'était pas à la maison. Il était en voyage ce jour-là. On ne savait pas à quelle heure il rentrerait. Elle dit « Je reviendrai ». et elle voulut s'en aller. Mais comme elle atteignait le seuil, une porte s'ouvrit et une voix demanda « Qu'est-ce que c'est, Rosine ?» Et la jeune femme qu'elle avait vue à sa première visite vint et la reconnut. Et quand elle l'eut reconnue, elle la retint. Il y avait de la tristesse, de la pitié et aussi de la surprise dans les yeux de cette femme. Et elle était jolie et fine. Et tout de suite, elle la questionna. Elle lui demandait « Qui est le père de cet enfant? Dites-le-moi !» Et comme elle ne voulait pas répondre, elle l'avait emmenée dans une chambre où il n'y avait personne. Pendant très longtemps, elles étaient restées enfermées ensemble, et elles ne s'étaient pas assises. Tout près, on entendait aboyer un chien. Il aboyait sans arrêt. Elle ne voulait toujours pas répondre, mais la question s'obstinait. Elle revenait avec toujours un peu plus de tristesse et de fatigue dans la voix. « Le nom de cet homme, il faut me le dire !» Parfois, la voix disait aussi « Je ne vous abandonnerai pas, moi, pauvre petite, n'ayez pas peur !» Et une fois, il y eut tant de bonté dans cette voix que tout à coup le chagrin creva comme une nuée trop pleine. Elle pleurait et elle parlait sans plus savoir ce qu'elle disait. Elle s'accrochait à cette voix qui était bonne et elle disait tout, les moqueries, la peur, l'abandon. Et sans qu'elle pût se souvenir comment cela s'était fait, le secret lui était échappé. Alors elle s'était sauvée, épouvantée, en portant dans ses oreilles le bruit d'un cri étouffé, et au fond de sa prunelle, l'image d'une femme au visage de morte, immobile et glacée comme une statue de pierre. Elle s'était retrouvée dans la tourmente d'hiver, plus misérable et plus seule qu'auparavant. Et tout de suite, d'autres inquiétudes étaient venues. Quand, faisant sa tournée matinale, le surveillant passait dans son voisinage, il lui semblait toujours qu'il la regardait. Elle était sûre qu'à la sortie, il la prendrait par le bras et lui dirait tout bas « Voyons, vous ne reviendrez plus ici !» Pourtant, on ne l'avait jamais molestée, et quelques semaines plus tard, elle était partie pour la frontière avec Lambert, son mari. Il avait une bonne place et l'argent ne manquait pas. Puis les enfants étaient venus. Mais Lambert s'ennuyait du lieu natal, et de plus en plus souvent, il lui reprochait d'être retenu loin de la ville à cause d'elle, parce que, en l'épousant, il avait promis de l'emmener. Ces jours-là, la mère cachait son aînée, petite fille toujours souffreteuse que les rudesses de l'homme effrayaient. Il la voyait de mauvais œil, ne sachant pas d'où elle venait, et quand le désir de retourner à la ville devenait trop fort, il la malmenait plus qu'à l'ordinaire. Enfin, ils étaient revenus. Les jours difficiles avaient commencé, et très vite, la petite fille maladive, à qui l'air de la campagne manquait, avait pris un mauvais mal de gorge, et elle était morte, toute chétive et menue. Lambert avait retrouvé de l'ouvrage, mais il se fatiguait davantage, et au retour, les cabarets le guettaient. Un coup de sang l'avait emporté en pleine force d'âge. Alors, pour faire vivre ses enfants, elle était rentrée à la fabrique. L'ouvrage ne lui avait jamais manqué, et elle s'était habituée aux choses, ne se plaignant de rien ni de personne. Mais ce jour-là, à Tillemont, quelque chose d'inconnu, l'âpre convoitise d'avoir eu elle aussi sa part des choses et de le laisser voir, avait brusquement bouleversé ses tranquilles habitudes. Tout à coup, elle se rejeta sur ses oreillers. La fatigue venait à la fin, la bienfaisante lassitude, qui pour un temps endort les peines, les inquiétudes, les souvenirs, les regrets, tout. Elle s'enveloppa de ses couvertures et ferma les yeux. Mais elle se redressa presque aussitôt, haletante. Sous l'omoplate gauche, au creux de l'os, une douleur fixe, plantée là comme une griffe de fer, lui coupait soudain le souffle. Elle se tournait et se retournait sans réussir à déloger ce point douloureux. Il était là et rien ne le débusquait. Jusqu'au matin, elle chercha en vain le sommeil. Mais, à l'aube, Comme le jour gris se levait lourdement, la fatigue l'accabla de nouveau. Une torpeur paralysa ses membres, jeta du vague et de l'ombre dans son esprit. Pourtant, elle continuait de percevoir la douleur fixe de son côté. Elle voyait aussi, sur la prairie de Tilmont, la Dispare cheminer à côté d'elle, les cheveux crépus collés aux tempes, le chapeau de paille suspendu au bras. Cette hallucination pesait sur son esprit comme plane à la surface d'un marais un miasme immobile. Chapitre 2. La cloche de 6 heures sonnait. Thérèse jeta loin d'elle la broderie qui chômait sur ses genoux et courut à la fenêtre. Sur le quai et dans les rues, étoilées de flaques noires, la foule des ouvrières se précipitait. La pluie avait enfin cessé, et par moments, un rayon de soleil, oblique et cru, faisait flamber la couleur vive des fichus. Cela passa comme un torrent déchaîné, puis au vacarme succéda, sans transition, l'ordinaire silence du quartier mort. Thérèse, toujours en grand deuil, le front appuyé à la vitre, inspectait la longue avenue déserte. Tout à coup, ayant aperçu ce qu'elle cherchait, elle alla se rasseoir, et ses longs doigts flexibles s'entrecroisèrent sur ses genoux. En recevant, ce matin-là, le billet laconique où Ernest lui annonçait sa visite pour l'heure de la fermeture, elle avait senti se réveiller aussi vivante qu'au premier jour l'amère rancœur du passé. Le mariage d'Ernest restait lié pour elle à la mort de sa mère. Depuis son retour, elle avait dressé et maintenu entre elle et son frère une infranchissable barrière. Elle se demandait ce qu'il pouvait bien lui vouloir, et les reproches longtemps comprimés dans son cœur montaient à ses lèvres. Ernest entra, et tout de suite il s'expliqua. « Je devais passer par ici aujourd'hui, Thérèse, alors j'ai pensé, on ne se voit plus jamais, j'entrerai un moment, mais je ne voudrais pas te déranger. » Elle dit froidement, « Pourquoi me dérangerais-tu ? Depuis la mort de maman, tu sais bien que je ne sors presque plus. » « Oui, je sais. » Il ajouta, l'air absent, « Tu as pourtant l'air mieux qu'autrefois. Et papa, est-ce qu'il ne se fatigue pas trop ?»« Non, c'était son désir depuis si longtemps d'avoir la direction. » Ernest esquissa un geste vers la maison qu'ils avaient occupée avant la nomination de leur père et reprit. « En tout cas, vous êtes bien mieux logés ici que là-bas. » Et tout en prononçant cette phrase banale, il s'aperçut que sa sœur portait encore un deuil profond. Lui, il avait quitté le noir la veille en même temps que Julie. Le ton amer, Thérèse protesta. « Je préférais beaucoup l'ancienne maison, moi, parce que nous y avons vécu avec maman. » Il murmura. « Ah oui, naturellement. Mais tu ne me comprends pas bien, Thérèse. Ce que je veux dire, c'est que toi, au moins, tu ne connais pas certains soucis rongeants, qui, à la longue, deviennent aussi une souffrance. » Elle se récria, les joues pâles. « Oh non, Ernest, ce n'est pas cela que tu voulais dire. Mais tu as déjà oublié maman, toi. Que tu aies pu l'oublier si vite, c'est affreux. » Ernest demanda vivement. « Pourquoi me dis-tu ça ? Est-ce parce que je ne porte plus le deuil ?» Elle dit douloureusement. « C'est vrai, tu ne portes plus le deuil. Mais pourquoi le porterais-tu ? Tu ne l'as jamais eu dans le cœur. » Et tout à coup, le flot brûlant de sa rancune rompit la digue. « Te voir heureux avec cette femme, après que tu as brisé le cœur de maman, je ne peux presque pas le supporter, Ernest. C'est ton mariage qui l'a tué. » Ernest se leva, la figure crispée. « Pourquoi maman s'est-elle mise entre Julie et moi ? À 25 ans, est-ce que je n'avais pas le droit d'être heureux à ma manière ? Comme si on pouvait, sur l'ordre de qui que ce soit, s'arracher un sentiment du cœur. Jusqu'à l'opposition qu'elle a faite à mon mariage, je cédais à tous ses désirs, tu le sais bien. » Thérèse ne répondit pas. Elle regardait dehors, pensive. Le long du quai, les chalands amarrés commençaient à allumer leurs fanales, et la lueur vacillante étoilait l'eau de frémissants filets d'or. Pour elle, ce spectacle, comme tous ceux que déploie sans cesse la vie extérieure, s'associait à la mémoire de sa mère. Mais pour Ernest, les souvenirs du passé n'étaient qu'une poussière de choses mortes. Elle comprit que ses reproches étaient inutiles. Ils lui retombèrent lourdement sur le cœur. Ce fut Ernest qui rompit le silence. « J'espérais avoir avec toi un entretien amical, Thérèse. Mais tu me reçois si mal que je ferais mieux de partir. Tu m'accables de reproches, je suis bien forcée de me défendre. Cependant, avant de m'en aller, je veux te dire franchement la vérité. J'étais venue d'abord pour voir comment vous alliez ici, mais aussi pour te demander un service. » Elle dit, laconique, « Je l'ai tout de suite deviné. » Ernest se mit à arpenter la chambre avec agitation. « Il y a des choses que tu ne comprends pas, Thérèse. Tu as la vie trop facile ici. » Ne recevant pas de réponse, il vint s'arrêter en face de sa sœur et dit rapidement « Tu feras ce que tu voudras. J'aime mieux te dire la vérité telle qu'elle est. Il y a des jours où je ne sais pas où trouver l'argent nécessaire à faire marcher mon ménage. Il a fallu s'installer, tu comprends. Alors, j'ai pensé que si je te confiais mes difficultés, tu pourrais, à l'occasion, en toucher un mot à papa. » Thérèse objecta d'un ton sec. « Mais si tu ne pouvais pas même l'entretenir, pourquoi l'as-tu épousée, cette femme ? Cette femme-là ! » Les traits d'Ernest se crispèrent. Il dit sourdement « Ne dis pas de mal de Julie, je ne le supporterai pas, comprends-tu ? Personne ne la connaît, ni toi, ni Félix, ni personne. Avant de l'avoir rencontrée, je n'étais qu'un automate, moi, que vous faisiez marcher à votre gré. Mais il est fini, l'esclavage. Je suis libre aujourd'hui, et je ne veux pas que personne insulte Julie devant moi, ni toi, ni Félix, ni personne. » Parce que je me suis avisée, un jour, d'avoir une autre volonté que la sienne, maman, qui aurait dû comprendre les choses, elle, et me soutenir, a mieux aimé... » Thérèse, les mains nerveuses cramponnées aux épaules de son frère, l'interrompit, suffoquée. « Ne dis rien de maman, Ernest. Après ce que tu as fait, que tu oses, ne dis rien de maman, entends-tu ?» Mais Ernest la repoussa. La colère des êtres faibles, la colère courte et brutale qui masque l'impuissance et aveugle l'esprit, s'était amassée en lui depuis le début de l'entretien. Elle éclata brusquement. « Laisse-moi, je te dirai ce qui me plaît. Oui, oui, je crierai sur les toits qu'entre maman et toi, ici, j'ai tout fait. Vous vous êtes tous ligués contre moi pour m'empêcher d'être heureux à ma manière. » J'en ai assez aujourd'hui de vos remontrances et de vos airs. Et sois tranquille, je ne te demanderai plus rien, ni à toi ni à papa. Gardez tout, qu'est-ce que cela me fait? Et ce qui arrivera si vous me poussez à bout, je m'en lave les mains. Ce sera ta faute et celle de maman, oui, tu ne m'empêcheras pas de lui dire, celle de maman. » Avant que Thérèse pût placer un mot, il se sauva en courant. Une demi-heure plus tard, Pierre Lambremont rentra. Thérèse, le front collé à la vitre, regardait encore dans la direction où elle avait vu disparaître son frère. Jamais comme ce jour-là, elle n'avait mesuré la faiblesse de cœur et d'esprit d'Ernest. Elle comprenait tout à coup la clairvoyance maternelle, pressentant des luttes, où, incapable de résistance, le jeune homme succomberait. Dominant son indignation, un scrupule s'était éveillé en elle, une sorte de pitié sourde qui étouffait sa colère. Elle regrettait à présent l'explosion de sa rancune. Mécontent de trouver sa fille absorbée dans une de ces rêveries tristes dont elle était coutumière, Lambremont fit jaillir la lumière. « Pourquoi restes-tu dans cette obscurité, Thérèse ?» À la voix de son père, elle se retourna. Lambremont, rajeuni, avait retrouvé toute sa vigueur et une expression de contentement éclairait son visage tout à fait débarrassé de teintes bistres de la maladie. Il rejoignit sa fille et ajouta, la voix claire, « Je viens de voir les actionnaires. Les affaires marchent mieux que du temps de Damblot. » Cette fois, Landrier lui-même a été forcé de constater l'amélioration. devant les chiffres, il faut bien se rendre. Je te dis cela, parce que toi non plus tu ne voulais pas me laisser accepter la direction. Vous aviez l'air si malade à ce moment. Elle ajouta sans transition. Papa, Ernest sort d'ici, je l'ai traité durement, je ne peux pas lui pardonner. Son père ne disant rien, elle continua. Il m'a laissé entendre qu'il a de la peine à vivre avec ce qu'il gagne. Et il compte sur moi pour faire naviguer son bateau, n'est-ce pas? Non, non, qu'il s'en tire comme il pourra à présent. Thérèse objecta, la voix tremblante. Maman n'aurait pas supporté de le voir manquer du nécessaire. Peut-être, mais sur beaucoup de points, ta mère et moi différions d'opinion, je te l'ai dit déjà. Elle murmura sourdement. Oh oui, bien des fois. Alors il est inutile d'y revenir. Et la quittant, il alla regarder par la fenêtre. Il la sentait prête à entamer un de ces entretiens pénibles où il percevait dans les paroles vagues une saveur âcre de reproche. Quelle était la source de ce mécontentement que Thérèse n'annonçait jamais nettement? Il avait souvent pensé à le lui demander. Le moment venu, une crainte étrange lui fermait la bouche. Les mains derrière le dos, il regardait dehors. Thérèse l'avait rejoint sans qu'il l'entendît. Tout à coup, il s'aperçut de sa présence et murmura « Ah, tu es là !» Elle ne répondit rien, et un silence régna. De l'autre côté du fleuve, l'horizon lointain flambait. Côte à côte, le père et la fille regardaient grandir l'incendie du ciel. Enfin, Lambremont se retourna et articula, le ton bref, « Par égard pour toi, Thérèse, j'ai remis jusqu'ici le bal que la direction donne annuellement. Je ne peux pas le renvoyer plus longtemps. Dès que la saison s'ouvrira, je le donnerai. Ce ne sera pas avant la fin de novembre. Tu as le temps de te préparer. » Thérèse protesta douloureusement. « Un bal ? Ici ? Déjà ?» « Voyons, Thérèse, tu ne peux pourtant pas rester en deuil toute ta vie. Pas plus tard que ce matin, Jacquemart m'exprimait sa surprise de l'existence de recluse que tu mènes. Dans la position que nous occupons, il faut, bon gré mal gré, se conformer aux usages. Tu te fais une religion de ton chagrin, tu t'y complais. Quelquefois, j'ai peur de te voir tomber dans les exagérations d'esprit qui ont gâté la vie de ta mère. » Elle balbutia. Ici, c'est déjà comme si maman n'avait jamais existé. Lambremont caressa un moment d'une main nerveuse sa barbe grisonnante, puis il dit. Autrefois, Thérèse, quand Dambloux m'a passé sur le corps, si j'avais été seule, j'aurais quitté le pays. Mais vous étiez déjà nés, Ernest et toi. Pour ne pas nuire à votre avenir, j'ai avalé mon humiliation et je suis restée. Alors, aujourd'hui, il semble qu'à ton tour tu devrais m'aider. Cependant, je ne trouve en toi qu'un perpétuel esprit d'opposition. Chaque fois que je te parle de ta mère, par exemple, j'ai le sentiment que tu me reproches quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si tu as un grief précis sur le cœur, dis-le. Thérèse murmura. Il me semble parfois que maman n'a pas été très heureuse, et je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle se créait à plaisir des chagrins imaginaires. Il la quitta, fit un tour de chambre et revint. Voyons, Thérèse, tu as dans la tête une idée que tu ne dis pas. Est-ce que ta mère s'est jamais plainte de moi? Si elle l'a fait, dis-le. Thérèse dit vivement. Oh non, jamais. Le visage de Lambremont s'éclaira. J'en étais sûre. Mais alors, pourquoi t'angoisser et me tourmenter moi-même pour des billevesées fabriquées de toutes pièces? Cela me fatigue à la fin, Thérèse. Thérèse ne répondit pas. Le père tira son portefeuille, en sortit hâtivement quelques billets qu'il tendit à sa fille. Tiens, envoie ça à Ernest. En souvenir de Stéphanie, et bien que ce soit un mauvais système, je viendrai en aide à ton frère pour cette fois. Il fit un pas vers la porte, se retourna et ajouta « Je rentrerai tard ce soir, ne m'attends pas. » Bien qu'il fût rentré, avec l'idée de ne pas ressortir, Il avait hâte à présent, ayant dit ce qu'il avait à dire, de rompre l'entretien et de se retrouver seul. Chapitre 3. Groupé dans l'embrasure profonde d'une des fenêtres de la salle de bal et caché derrière les lourds rideaux de laine, trois hommes causaient. C'étaient trois des plus importants actionnaires de la fabrique Linière, capitaliste bien coté dans le monde des affaires et auquel Lambremont devait en partie sa nomination. Le plus jeune des trois, blond, ventru, jovial, disait « Quand j'étais jeune, c'est ainsi que mon père me traitait. Et aujourd'hui, je le comprends. Cette jeunesse, si on la laissait faire, elle nous brouterait toute la laine sur le dos. » Il riait avec bonhomie, les dents invisibles sous l'épaisse moustache blonde. Le crâne, chauve au sommet, avait près des oreilles des touffes de cheveux clairs. Il ajouta « Votre garçon marche bien, à ce qu'on m'a dit, Redard. »
« Oh, bien, entendons-nous, Jacquemart.
Intelligent, il l'est. Mais le travail pratique, ça ne lui dit rien. Il fait de la littérature. Quand je le pousse à achever ses études et à ne pas rater son examen cette année, savez-vous ce qu'il me répond, les mains dans les poches ?»«
Voyons, papa, tu as plein ta caisse de métal. Alors pourquoi veux-tu que je m'échine ainsi ?»«
Aux enfants d'aujourd'hui, il faut des nids tout faits. C'est la mode. » Jacquemart approuva. Ce sont des coquins qui nous glissent entre les doigts comme des anguilles. Il y eut un petit silence. Bientôt, Redard reprit. Je regardais danser votre fille tantôt, Landrier. Elle est ravissante, une petite fée. Est-ce vrai que vous la mariez bientôt?
Landrier redressa sa haute taille osseuse et répondit froidement. Tout le monde le dit. « Mais qu'il montre ce qu'il vaut d'abord, le jeune homme. Plus tard, on verra. »
Redard continua. « C'est ce pauvre Lambremont qui en a eu de l'ennui avec son Ernest. Je craignais un peu de la retrouver ici, cette femme. »
Jacquemart se récria.
« Allons donc, Lambremont n'y a pas même pensé, il sait se conduire. En même temps, il est actif, scrupuleux, clairvoyant. C'est l'homme qu'il nous fallait. « Je vous le disais depuis longtemps. »
Landrier dit sèchement. « Tant que sa femme vivait, c'était impossible. Elle était toujours fourrée chez les ouvrières. Elle allait droit son chemin comme un chien enragé. J'étais souvent chez Lambremont à cette époque, et j'ai bien des fois admiré sa patience. Madame Stéphanie n'en finissait pas de se plaindre, de la corruption, des tromperies, des mensonges des ouvrières. » Mais pourquoi, diable, se mêlait-elle de leurs affaires, alors? Quand on prétend craindre la fange, on ne met pas le pied dedans tout le long du jour. Elle, elle y pataugeait à cœur joie, uniquement pour se donner le plaisir d'assommer les gens. Jamais, elle vivante, je n'aurais donné ma voix à Lambremont. Ni Fressard, ni Garnier, ni Dangeois. Et vous, Jacquemart?
« Oh, moi, certainement. J'aimais beaucoup Madame Stéphanie. Elle était un peu prime sautière, si vous voulez, un peu imprévue, comme une petite machine trop délicate qu'un rien détraque et dont les mouvements deviennent alors irréguliers et fantasques. Mais ses intentions étaient excellentes. Elle a réussi à assainir un peu le cloaque. Pas beaucoup, parce que c'est impossible. » Mais ce qu'elle a pu faire, elle l'a fait. Elle y allait de tout son cœur, comme si quelque ressort caché la poussait. Quelquefois, je lui disais, « Ma chère dame, vous perdez votre temps. » Elle prenait un air triste et me répondait invariablement, « Mon temps, et qu'est-ce que mon temps? On ne pourra jamais me reprocher d'avoir négligé mes enfants. » Et c'est vrai, elle était la meilleure des mères. La folie d'Ernest et son ingratitude lui ont brisé le cœur. Quant à sa fille, elle n'est sortie de deuil ce soir que sur l'ordre exprès de son père. Je le tiens de Lambremont lui-même. Quand on laisse derrière soi un souvenir aussi vivant, c'est que pendant sa vie, on a valu quelque chose.
Landrier protesta ironique.
Les regrets de Lambremont ont été moins tenaces. Il est vrai que sa nomination l'a consolé de tout.
Depuis des années, il n'avait qu'une idée dans la tête, avoir la direction. Il l'a aujourd'hui, et c'est un bon directeur. Mais à part cela, vous en faites trop de cas, Jacques Mar. C'est un homme comme un autre, ni plus ni moins. Souvenez-vous de l'accueil qu'il a fait à Damblou. Il s'est assagi depuis, c'est vrai, parce qu'il le fallait bien. »
Personne ne répondit. Le ton de Landrier avait une acerbité que dissimulait mal le sourire forcé des lèvres. Cela jeta un froid. Jacques Mar, de ses doigts gantés, tambourinait sur la vitre. Les paroles de Landrier lui avaient visiblement déplu. Son visage débonnaire s'était assombri et ses gros yeux pâles restaient fixés dehors. La nuit, sous la voûte pesante des nuages, était très noire, mais l'éclat cru des réverbères chassait l'obscurité des proches abords de la maison et de l'entrée du jardin. Soudain, Rodard jeta en manière de diversion. « Mais regardez donc cette fillette! Voilà la seconde fois qu'elle franchit le portail. Qu'est-ce qu'elle fait dehors à ces heures ?»
Landrier jeta un regard aigu dehors et s'écria
« Ça, mais c'est la petite Lambert de la fabrique ! Damblou m'a signalé cette famille. Je la connais depuis longtemps. Les filles aînées ne valent rien, mais l'Ambremont les protège, et le contremaître ne réussit pas à les expulser. Damblou ne comprenait rien à ce favoritisme. Que de fois il me l'a dit. Quant à cette gamine, elle apporte probablement quelques pétitions, comme si c'était une heure pour faire courir les enfants dans la rue. Avouez que tout cela est assez bizarre. »
Un bruit sec de verre cassé l'interrompit. Les trois causeurs sortirent précipitamment de leur retraite. Au-dessus de leur tête, la glace, étoilée d'un trou béant, venait d'être traversée par un projectile aigu. Il y eut un petit tumulte de surprise. Landrier, voyant l'Ambremont traverser la salle à la hâte, l'arrêta au passage.
« Écoutez donc, Lambremont, c'est la petite Lambert qui a fait le coup. Je l'ai vue comme je vous vois. Il faut se débarrasser de cette engeance le plus vite possible, croyez-moi. »
Lambremont dit précipitamment « La mère est une brave femme, elle est malade pour le moment. Dès qu'elle sera mieux, je les expédie toutes à B, où j'ai trouvé de l'ouvrage pour elle. »
Landrier se récria. Vous vous donnez donc la peine de caser toutes les ouvrières qu'on expulse? Pour un directeur, c'est pousser bien loin la philanthropie, mon cher. Sans vos instances, Damblou aurait déblayé le terrain de celle-là depuis longtemps. Vous savez aussi bien que moi que le contremaître le harcelait de rapports à leur sujet, mais vous étiez toujours là pour vous interposer. Allons, courage, décidez-vous à la fin, et faites-moi jeter tout ça dehors. »
Lambremont resta un instant silencieux. Une sourde irritation le possédait, remuant des tréfonds obscurs, mais, comme toujours, il refoulait son mécontentement. Cette fois, du reste, Landrier avait raison. Le sort des ouvrières et leurs faits et gestes ne le concernaient en rien. Ne pouvant pas reprendre ce qu'il venait de dire, il répondit à la hâte, d'un ton sec,
« C'est ma femme qui intercédait toujours pour les ouvrières, mais dès demain j'arrangerai cette affaire, Landrier, je vous le promets. »
La courte excitation causée par l'incident s'était déjà calmée. Avec un froufrou d'étoffe soyeuse, un murmure de voix et de rire, la foule des danseurs se dirigeait vers le buffet. Lambremont, à la recherche du domestique, se hâtait dans la direction opposée. Tout à coup, une main se posa sur son bras.
« Papa, qu'est-ce que c'était ?»
Très embellie dans sa toilette de tulle blanc, Thérèse, au bras de Félix, suivait la masse des invités. En voyant son père, elle s'était élancée. Lambremont dit, laconique,
« Est-ce qu'on sait quelque gamin qui a voulu s'amuser en passant ?»«
À cette heure, un gamin ? Oh non, ce n'est pas possible !»
« Je t'en prie, Thérèse, » fit-il ennuyé, « pas à présent. »
Félix choisit, pour y installer sa danseuse, un angle discret où il pourrait causer à l'aise. Il s'empressa de la servir et il s'assit à côté d'elle. L'air saturé de parfum lui montait un peu au cerveau,
et, comme cela lui arrivait toujours dans les rares occasions où il s'affranchissait pour quelques heures de tout souci professionnel, il s'abandonnait à la griserie passagère du moment. Son œil souriant enveloppait d'une caresse affectueuse la svelte silhouette vaporeuse. Jamais le charme délicat de Thérèse ne lui était apparu attirant comme ce soir-là. Dès son arrivée, un peu tardive, il l'avait distinguée au milieu de la foule, et à la voir sortie enfin de ses noires enveloppes, il avait senti le choc d'étonnement qu'on éprouve à retrouver, dans un être qu'on a connu autrefois, un individu nouveau. Avec la familiarité amicale qui avait toujours existé entre eux, il la flattait gentiment. « Thérèse, vous êtes jolie comme une petite fée ce soir. Jamais je ne vous ai vue si bien. Enfin, vous voilà donc débarrassée du noir. » Thérèse arrêta sur lui sa prunelle claire. « Vous êtes comme les autres, Félix. Vous avez déjà oublié maman. Elle vous aimait pourtant comme un fils. Que de fois elle m'a dit « Tu as deux frères, le fort et le faible. » Mais quand il s'agit de garder quelque mémoire à une morte, le fort ne vaut pas mieux que le faible. Je hais cette fête, ce bruit, ce monde, moi, parce que le souvenir de maman est encore trop vivant ici. » Étonné de l'apostrophe, Félix resta silencieux. Avec sa prestance de beau garçon, sa vogue, son franc-parler, il inspirait une crainte qui le mettait à l'abri des observations irritantes. Le reproche de Thérèse le prenait d'autant plus au dépourvu que, ne croyant guère au long chagrin stationnaire, la tristesse de Thérèse l'avait agacée comme une sorte de pose inconsciente à laquelle elle s'habituait trop. Enfin, il répondit simplement « Trop de choses remplissent mes heures pour que je m'abîme dans des considérations inutiles, Thérèse. Je suis parfois tellement fatiguée que je vais devant moi comme un automate. » Il s'arrêta une seconde, les yeux perdus devant lui, et reprit. « Ce que je vais vous dire vous semblera peut-être brutal, mais cela vous fera mieux comprendre que je ne suis qu'un fils de paysan, disant les choses telles qu'elles sont. Vous n'avez pas connu mon père. C'était un homme dur. Était-il juste, au moins, je n'en sais rien. Moi, je le trouvais méchant. Il me rudoyait sans cesse. Il rudoyait aussi ma mère. » Pauvre créature toujours douce, effacée et soumise. Un jour d'été, il fut foudroyé en pleine activité. On le rapporta mort à la maison. Eh bien, ce que j'éprouvais à ce moment-là, ce fut un sentiment d'intense délivrance. Je ne comprenais rien aux larmes de ma mère. J'allais me cacher loin d'elle pour lui dissimuler ma joie. Thérèse, ne répondant rien, il la regarda et continua. « Votre mère a mis sur ma vie une empreinte qui ne s'est pas effacée. C'est ainsi que j'honore sa mémoire. Il ne faut pas m'en demander davantage. Je suis un homme d'action, moi. Mon champ est le présent. Je n'ai pas de temps à donner à de vaines rêveries. Et tenez, puisque nous parlons à cœur ouvert de ces choses, laissez-moi vous faire aussi un reproche. Ne pourriez-vous pas employer mieux votre temps qu'à vous ronger l'esprit en pure perte comme vous le faites ? Par exemple, croyez-vous qu'il soit prudent d'abandonner Ernest à la seule influence de sa femme ? » Il se tut brusquement et son cœur se serra. Depuis quelque temps, très souvent, Ernest venait lui emprunter, tantôt quelques francs, tantôt des sommes assez importantes. Dès qu'il touchait ses appointements, le jeune homme liquidait sa dette, mais pour la contracter de nouveau quelques jours plus tard. Félix était son perpétuel créancier, et s'il considérait l'aide donnée à Ernest comme un juste retour des choses, et en quelque sorte une équitable redevance vis-à-vis de la famille Lambremont, il pressentait, avec effroi, un avenir prochain où ce qu'il pouvait faire ne suffirait plus. Thérèse l'avait écouté, très attentive. En relevant les yeux, elle rencontra un regard sérieux, caressant, chargé de pitié. Une teinte rose lui monta aux joues. Elle murmura « La dernière fois qu'Ernest est venu, je l'ai mal reçu. Je ne peux pas lui pardonner. Il n'est plus revenu depuis. » Elle ajouta, « Il y a tant de choses autour de moi que je ne comprends pas bien. »«
Lesquelles ? » demanda-t-il. « Peut-être que je pourrais les comprendre, moi. »
Elle lui jeta un regard rapide, rencontra deux prunelles attentives, caressantes, et elle se décida.
« Comment faut-il vous expliquer ? Ça n'a pas de forme, ça flotte dans l'air, ça ne se saisit pas avec les doigts. Tenez, par exemple, chaque fois que je parle de maman à papa, il s'irrite. Vous savez qu'il n'a jamais aimé qu'elle s'occupât des femmes de la fabrique. Et aujourd'hui, si je la nomme, il ne manque pas de réveiller ce grief. Et avec quelle aigreur ! Alors je me dis que peut-être elle a eu, à côté de moi, un chagrin que je n'ai pas su deviner, et qu'ainsi je n'ai pas été pour elle la compagne que j'aurais dû être. C'est cela qui me ronge, comprenez-vous ? »
Ses joues s'étaient colorées. Elle hésita, puis ajouta rapidement. « Il me semble que si je savais ce qu'a été ce chagrin, je pourrais mieux comprendre les choses et mieux m'entendre avec papa. Mais il y a entre nous quelque chose d'inconnu que je ne peux ni pénétrer ni oublier tout à fait. Il s'aperçoit de mon malaise, et cela nous tourmente tous les deux. »
Félix ne remarqua pas qu'elle s'était tue. Un vague soupçon, qui avait hanté quelque temps son esprit autrefois, sortait brusquement des replis de sa mémoire, accompagné de l'épisode fugitif qu'il avait fait naître. C'était pendant sa première année de pratique, un jour de juillet très chaud. Midi venait de sonner. Pour répondre plus vite à l'appel pressant de Madame Stéphanie, n'ayant pas trouvé de fiacre sur sa route, il avait traversé au pas de course la ville brûlante et en atteignant enfin le lointain faubourg où on l'attendait, il était en nage. Madame Stéphanie était venue au-devant de lui.
« Mon pauvre enfant, comme vous avez couru ! Mais vous avez bien fait ! Venez vite !»
Elle l'avait conduit auprès d'une fillette que suffoquait la diphtérie. Tout le monde, même la mère, fut renvoyé. Seule, le secondant de son mieux, Madame Stéphanie assista à l'opération. Comme ils s'en allaient ensemble un peu plus tard, l'excessive pâleur de sa compagne le frappa. Il avait dit « « Ces spectacles-là ne sont pas faits pour vous. » Elle répondit, « Il y a des choses plus cruelles que celles-là. C'est Pierre, du reste, qu'on réclamait, mais il est absent. » Elle ajouta, « Est-ce que cet enfant vivra ?» Il en doutait et sa réponse fut évasive.
« Elle est bien bas. »
Elle n'avait plus ouvert la bouche et bientôt ils s'étaient séparés. Mais la détresse perçue au fond de la claire prunelle l'avait longtemps poursuivie comme une hantise. Et plus d'une fois, l'idée que l'embrement n'était pas étranger à ce chagrin, qu'il jouait dans cette affaire un rôle caché, l'avait obsédée. Puis, l'activité grandissante de sa vie avait chassé et l'impression pénible et le souvenir. Les paroles de Thérèse les ramenaient à fleur d'eau. Tout à coup, il sortit de sa courte rêverie. Thérèse lui touchait le bras. « Il faut nous en aller, Félix. » Il s'aperçut que le vide s'était fait autour d'eux. Il se leva, offrit son bras et ramena Thérèse dans le tumulte du bal. Dès qu'elle parut, un danseur vint la réclamer. Jacquemart, Landrier, Rodard et quelques autres, restés attablés dans la salle du buffet, avaient regardé le couple s'éloigner. Jacquemart dit « L'Embremont désirerait beaucoup, je crois, voir sa fille se décider pour Massange. Il a raison, c'est un garçon d'avenir. Cependant, si Thérèse ne veut pas, il n'y a rien de fait. »
Landrier répliqua, ironique « Et Massange, est-ce qu'on ne le consultera pas, lui aussi ? Il doit pourtant avoir voix au chapitre, ça me semble. »
Au creux de sa main, grasse et blanche, Jacquemart faisait sauter une lourde breloque d'or. Ses gros yeux pâles eurent une petite flamme fugitive. Il dit « La nomination de l'Embremont vous a beaucoup contrarié, Landrier. Il y a longtemps que je le sais. »«
Moi ? Allons donc. Est-ce que je ne lui ai pas donné ma voix aussi bien que vous ?»«
On ne s'oppose pas à certaines majorités. »«
Erreur ! Une fois Madame Stéphanie morte, je n'avais aucune objection à faire à l'embrement. Je le préférais en tout cas à Arnold de Noël, trop jeune. »
Jacquemart tambourinait sur la table, ne regardant rien. Landrier se leva et dit froidement « Et si nous rentrions un moment dans la salle avant de nous en aller ?» Tout le monde le suivit, sauf Jacquemart. Resté seul, l'actionnaire songea.
« Je crois bien qu'il commence à soupçonner que j'ai vanté sa mine. Une vipère comme celle-là, à la place de l'Embremont, nous aurions été bien servis. Non, non, tant que je vivrai, la direction, il ne l'aura pas. »
Et un instant, il repassa les intrigues menées par Landrier pour écarter de la direction le rival, qu'à tort il redoutait le plus. Il s'était acharné sur Arnold Noël, et pendant ce temps, L'Embremont avait passé. Dans les heures de crise, où couvent à l'ombre beaucoup d'ambitions que la déception exaspère, les indiscrétions malveillantes n'ont rien d'anormal. C'était par quelques paroles volontairement imprudentes que Jacquemart avait découvert l'ambition de Landrier et les moyens qu'il employait pour atteindre son but. En quittant Thérèse, Félix, avide de solitude, alla chercher refuge, comme naguère les actionnaires, derrière une détenture qui masquait les fenêtres. Un souffle froid lui caressa aussitôt le visage. Par le trou béant de la glace, l'air du dehors entrait. Il n'y avait pas une étoile au ciel, mais de l'autre côté de l'eau, la distance éclairée illuminait de reflets vacillants la voûte obscure. Le froid néant qui précède la venue du jour pesait sur la ville. Félix se mit à songer à Thérèse. Au milieu de son deuil profond, enveloppé de crêpe, la fidèle petite amie de son adolescence lui était devenue presque étrangère. Auparavant, elle n'avait été à ses yeux qu'une fillette gentille qu'il pouvait, selon la saute de ses humeurs, négliger ou combler d'attention. Ce soir-là, à son entrée dans la salle de bal, elle lui était apparue, au milieu des gaz de sa blanche toilette, comme un être nouveau, fleur fragile au parfum inconnu. Il s'était hâté de la rejoindre, discernant très bien la nature du charme qu'il avait surpris à l'improviste. Thérèse était brusquement sortie, à ses yeux, de la longue enfance, où les habitudes du passé et la différence de leur âge l'avaient si longtemps reléguée. Elle était devenue femme, et entre eux, les jours de libre intimité avaient lentement tissé un lien solide. Plusieurs fois, pendant leur entretien, ce soir-là, une subtile musique avait chanté à son oreille. « Si tu voulais, elle t'aimerait. » Il avait fait taire la voix tentante. Désormais, Thérèse était un des bons partis de la ville. À la sortie de sa retraite, beaucoup de convoitises la guetteraient. Alors, profiter des avantages que lui donnaient les relations du passé, il ne pouvait pas y songer avant d'avoir pressenti les dispositions de l'Embremont. Puis, sa pensée retourna au père de Thérèse, et le malaise qu'il avait éprouvé naguère en écoutant la jeune fille revint comme une ombre flottante à assombrir son esprit. Des roulements de voitures commençaient à rompre le silence profond du dehors. La nuit s'avançait, le bal tirait à sa fin, et tout à l'heure, au petit jour, quand la foule des danseurs se disperserait, les femmes de la fabrique arriveraient. Elles arriveraient avec la fatigue de la veille pesant encore sur leurs membres, ou écrasées par les lassitudes du vice. Ombre grise dans le crépuscule gris, elles arriveraient essaimées sur les routes comme des butineuses, apportant chacune son effort, sa peine, sa vie. Brusquement, le soupçon que l'Embremont avait commis une faute grave, qu'il gardait cachée au fond de son cœur, l'étreignit de nouveau, mais il le refoula violemment. L'Embremont ? Non, c'est impossible. Au même instant, la tenture derrière laquelle il s'abritait se souleva. L'Embremont, en s'introduisant dans les trois refuges, prononça, la voix gaie, « C'est moi !» « Je vous ai vu vous éclipser ici, Félix. Vous vous ennuyez donc terriblement, mon garçon ? Patience, ce sera bientôt fini.
Félix protesta. « Mais je ne m'ennuie pas du tout, Lambremont. Je regardais le va-et-vient des feux. Dans cette nuit noire, c'est presque beau. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me représentais l'arrivée des femmes tout à l'heure, quand vos invités s'en iront. Et ce contraste me faisait penser à Madame Stéphanie. » Lambremont dit froidement, « Thérèse ne cesse de me poursuivre d'observations de ce genre. » De sa main gantée, il caressa sa barbe effilée, grisonnante aujourd'hui, et reprit. « Mais de vous, je ne m'attendais pas à les entendre. On dirait vraiment que c'est une gageure. » Il y avait de l'impatience dans sa voix. Il s'en aperçut, s'interrompit, changea de ton et continua. « Il faut s'accommoder à la réalité telle qu'elle est. C'est ce que Stéphanie n'a jamais su faire. » Est-ce que je n'accepte pas l'équipée d'Ernest, moi? Et tout à l'heure, quand Landrier m'a fait cette belle algarade, croyez-vous que cela m'a été agréable? Mais laissons cela. Si je suis venu vous relancer ici, c'est pour vous reprocher de nous abandonner comme vous le faites. Thérèse se laisse trop aller, elle a besoin de distraction. J'ai été heureux de vous voir vous occuper d'elle ce soir. » Brusquement, il posa sa main sur l'épaule du jeune homme et reprit. « Plus vous vous occuperez d'elle, plus vous me ferez plaisir. » Son œil attentif scruta un instant le beau visage aux traits fermes et il ajouta. « Vous me comprenez, mon ami, n'est-ce pas ? » Félix tressaillit. L'offre, si claire, le prenait par surprise, le remuait, l'étonnait profondément. Il cherchait des mots qui ne venaient pas. Enfin, il murmura « Merci, Lambremont. » Et il interrogea, le ton un peu altéré, « Mais, Thérèse... » Lambremont dit, content, « Thérèse, c'est votre affaire. N'ayez pas peur. » Brusquement, ils se serrèrent la main. Ce fut une étreinte courte et muette. Puis Félix reprit « Lambremont, « votre confiance me rend très heureux, mais j'ai besoin de me retrouver seul. Laissez-moi m'en aller. »« Allez, mais revenez bientôt. »« Je reviendrai demain. » En traversant la salle, Félix chercha des yeux Thérèse. Il ne la vit pas. Un instant, l'envie de rester pour la questionner tout de suite lui traversa le cœur, mais il se ravisa et s'esquiva. Au sortir du vacarme éblouissant du bal, la solitude et la fraîcheur nocturne le détendirent. Il s'en allait très vite le long du fleuve, et bientôt il eut atteint le pont qu'il avait traversé avec Ernest, le jour où le jeune homme était venu lui annoncer son mariage. Le magasin de Madame Hurlet, hermétiquement clos, avait un air de dédain maussade. Il s'arrêta, s'accouda au parapet et regarda fuir le fleuve. Ses pensées allaient et venaient, confuses. Il embrouillait le passé et le présent. Des bouffées de regrets lui venaient du gaspillage de son cœur, de tant de fausses tendresses laissées aux ronces du chemin. Dans sa fraîcheur, Thérèse lui apparaissait inaccessible. Puis, il lui semblait que leur longue intimité avait préparé l'éclosion de cette heure, et que Lambremont guettait depuis longtemps le moment de lui offrir l'avenir inespéré, que ce soir-là, pour la première fois, lui-même avait secrètement convoité. Lambremont. Tout bas, il répéta plusieurs fois les trois syllabes familières. Il les articula enfin tout haut. Lambremont. Et c'était comme une question qu'il se posait, et à laquelle il ne trouvait pas de réponse. Enfin, il acheva vivement. Non, c'est impossible. Et il s'en alla à travers les rues mortes. Au petit jour, les derniers invités partirent. Thérèse et son père restèrent seuls dans la salle jonchée de débris, de fleurs, de fragments d'étoffe. L'air surchauffé, saturé de poussière et de parfums, était presque irrespirable. « Va te coucher, Thérèse, » dit le père doucement. « Tu n'en peux plus. » En même temps, il prit la jeune fille par les épaules, considéra les yeux cernés par l'effort de cette longue soirée de contraintes et murmura « Thérèse, j'ai été heureux de te voir en si bons termes avec Félix ce soir. L'écorce est un peu rude, mais c'est un homme de cœur.
il fera son chemin. Tu me comprends, n'est-ce pas? Va maintenant, va. »
Thérèse ne répondit pas, mais une montée de sang fit flamber sa pâleur, et, satisfait de ne pas se heurter à l'esprit d'opposition si facile à éveiller chez Thérèse, Lambremont la laissa s'éloigner sans exiger d'autre réponse. Il ne s'était donc pas trompé. L'affection enfantine de Thérèse était prête à se transformer en un sentiment plus fort, qui, peu à peu, remplirait le vide laissé par la mère, vide jusque-là impossible à combler. Sur un point, au moins, leur désir ne se contrarierait pas. Il pourrait la rendre heureuse sans se contraindre lui-même. Le cœur soulagé, il la regardait fuir sans bruit sur le parquet glissant. Si souvent, pour la faire plier, il avait dû employer l'autorité péremptoire d'un ordre. Dehors, l'aube d'hiver pointait, terne, froide, humide, et tout à coup, la cloche de la fabrique jeta son appel strident. 6 heures. Lambremont monta chez lui, changea de vêtements et sortit.